Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et il fait gris et il pleut, Géraldine.
C'est très perturbé pour aujourd'hui, hein. Pratiquement tout le monde sera sous la pluie, sauf vraiment si vous êtes tout à l'est entre l'Alsace et la Côte d'Azur. Mais sinon, ailleurs, oui, du gris, de la pluie, des averses dans l'ouest, des averses parfois orageuses, hein, près de l'Atlantique avec beaucoup de vent. Les températures baissent un peu ce matin, globalement on est quand même largement au-dessus des normales de saison. Cet après-midi, ce sera comme hier, avec 8 degrés à Lille, à Lyon, 9 à Paris, à Grenoble, 10 à Brest ou Clermont-Ferrand, 11 à Marseille, 12 à Bordeaux, jusqu'à 16 pour Ajaccio.
Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quelle sera l'énergie de demain? Vous allez voir que la France a investi énormément d'argent ces dernières années dans l'hydrogène et pourtant, eh bien, une entreprise près de Lyon vient d'annoncer 350 suppressions de postes. Vous allez entendre Emmanuel Macron qui demande à la Chine de s'investir pour la paix en Ukraine et d'investir économiquement aussi en France. Et on va parler du carton des vins sans alcool. On en boit de plus en plus en France. On a les chiffres, ce sera sans aucun doute la tendance pour les repas pendant les fêtes.
Et on s'interroge sur ce que devait être l'énergie du futur.
La France a misé gros ces dernières années sur l'hydrogène en investissant 600 millions d'euros, notamment dans une usine près de Lyon. Et bien cette usine en question, l'usine Symbio, qui fabrique des piles à hydrogène, vient d'annoncer un plan de restructuration. 358 postes supprimés sur 530, lâchés notamment par Stellantis, un des actionnaires. Vincent Chevalier pour RMC, vous êtes devant cette usine toute neuve, inaugurée il y a seulement 2 ans.
Avec des entreprises qui enchaînent les déboires. En mai dernier, le fabricant français d'hydrogène bas carbone McPhy a été placé en liquidation judiciaire alors que sa méga-usine, annoncée en grande pompe, devait à terme créer 450 emplois. La filière attend désespérément des commandes qui n'arrivent pas. Malgré un soutien constant des autorités, rien n'y fait. Le choix de l'hydrogène pour décarboner le transport se heurte à un principe de réalité, analyse Cédric Philibert, spécialiste des politiques de décarbonation.
Il faut 3 fois plus d'électricité pour faire de l'hydrogène et faire rouler un véhicule que pour faire rouler ce véhicule directement à l'électricité. Donc déjà, vous avez un coût de l'énergie qui est 3 ou 4 fois plus.
L'État s'est fourvoyé en misant sur l'hydrogène un peu partout, alors qu'il fallait miser sur l'hydrogène dans l'industrie pour des usages très spécifiques.
L'État a d'ailleurs revu sa copie depuis en réduisant ses objectifs de production d'hydrogène d'ici à 2030.
Les doutes pour l'avenir de la filière avec Alfred Orange pour RMC. L'image et l'information de la nuit, c'est la rencontre France-Chine à Pékin. Emmanuel Macron en visite d'État là-bas a longuement échangé cette nuit avec son homologue chinois Xi Jinping, notamment sur les pratiques déloyales des géants chinois. On pense aux plateformes en ligne. Écoutez ce qu'a dit le président.
L'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. Et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois.
Voilà Emmanuel Macron qui a aussi demandé au président chinois d'agir pour la paix, une paix robuste et durable. Voilà ce qu'il a dit en Ukraine, la Chine ayant des liens privilégiés avec la Russie. Le Quai d'Orsay demande la libération du journaliste français Christophe Glaize, à nouveau condamné à 7 ans de prison hier en Algérie pour apologie du terrorisme dans le cadre d'un reportage sur un club de foot kabyle. C'est une affaire qui secoue la gendarmerie depuis 2011 et le suicide cette année-là de Myriam Sacri, gendarme qui avait mis fin à ses jours dans son logement de fonction près de Lyon. La justice doit se prononcer ce matin sur les suites à donner à cette mort dont la famille récuse la thèse d'un suicide pour raison personnelle. Constance Bostoen du service police-justice à RMC, sa sœur qui témoigne sur la chaîne BFM Lyon, demande à la justice d'engager de nouvelles investigations.
Oui, Nadaria Sacri en est persuadée. Sa sœur Myriam s'est donné la mort après avoir été victime de harcèlement moral et de propos racistes de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques.
On a réussi à avoir plusieurs attestations d'anciens gendarmes, d'anciens collègues de Myriam. Et c'est une attestation de ce gendarme-là avec sa femme. Il a dévoilé qu'il avait assisté à des insultes que ma sœur aurait eues devant lui.
14 ans après les faits et malgré de nombreux rebondissements dans la procédure, les proches de la jeune femme espèrent la tenue d'un procès. Ils dénoncent des manipulations de la part des anciens supérieurs de Myriam pour étouffer l'affaire.
Tout ce que ma sœur Myriam a dénoncé en 2011 s'est prouvé aujourd'hui. Donc ça serait vraiment de la mauvaise foi et du mépris s'ils nous rendent un non-lieu.
L'avocat de la famille a demandé la mise en examen de plusieurs anciens collègues et supérieurs de la gendarme de 32 ans, ainsi que l'exploitation de son téléphone et de son ordinateur.
Les résultats des analyses attendues à Alès au lendemain de la mort de trois jeunes de seulement 14, 19 et 19 ans dans un accident de la route avec encore une fois l'ombre du protoxyde d'azote dans ce drame puisque des bonbonnes de protoxyde ont été retrouvées à l'intérieur du véhicule. La colère de la Fédération nationale des usagers des transports. Colère contre le déploiement des trains Ouigo à la SNCF. Les TGV low cost, c'est pas cher, mais c'est bas de gamme. Ça remplace notamment depuis des années les prix abordables dans les TGV plus classiques. Eh bien, la fédération explique que ça profite davantage à la SNCF qu'aux passagers, à Inès Zegloul.
Il y a ceux qui ne jurent que par ça, prêts à passer plusieurs heures dans un train low cost.
C'est beaucoup moins cher. Une nuit, le prix, c'est 4 fois plus cher.
C'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Quand on prend Ouigo, le confort, il est pas moins bien.
En entendant ça, Céline Tic élève les yeux au ciel. Cette maman s'apprête à monter à bord d'un Ouigo pour la première fois, direction Nantes.
Je l'ai payé, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 25 euros.
Billets non remboursables, carte de réduction non applicable et prix comprenant un supplément de 3 euros pour pouvoir brancher son téléphone.
Payer une prise, c'est un petit peu abusé, je trouve. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, même 3 euros, c'est un truc à aller manger au magasin, quoi, en fait.
Alors, à choisir.
Je préfère prendre, du coup, un vrai TGV Inouï et avoir plus de confort, plus de place, etc.
Primordial, donc, de leur laisser le choix, défend François de Lettraz, président de la FNOT, Fédération d'usagers des transports.
On demande que l'offre Inouï reste la même, absolument que l'offre TGV haut de gamme, de bonne qualité, soit là.
Nous avons le sentiment, conclut la FNOT, que Ouigo n'est pour la SNCF qu'une rustine pour faire face à la forte demande.
On s'interroge encore ce matin sur la qualité de l'eau du robinet. Pourquoi ? Parce que l'agence de sécurité sanitaire a retrouvé un polluant potentiellement dangereux pour la santé, en l'occurrence le TFA, dans 92% de ses prélèvements issus de produits industriels ou de pesticides, notamment de l'agriculture. On s'interroge aussi sur la qualité de l'eau en bouteille. Pourquoi ? Parce que 2500 palettes de bouteilles Perrier sont actuellement bloquées en raison d'anomalies après détection d'écarts bactériologiques sur le site de production de Vergèze. C'est dans le Gard, Nestlé qui détient Perrier, vous le savez, est au cœur d'un scandale après avoir admis utiliser des traitements interdits pour traiter ses eaux.
Et puis alors, il y a une tendance de plus en plus marquée en France. Un tiers des Français ont déjà bu du vin sans alcool.
Oui, ce chiffre est même en hausse de 9 points sur un an, d'après l'Institut CSA, qui a enquêté sur ces vins sans alcool qui séduisent de plus en plus les consommateurs. Et vendeurs et producteurs l'ont bien compris, dans le Bordelais, où vous êtes le correspondant d'RMC, Pierre Bourgès, il y a de plus en plus de vins sans alcool, donc en boutique.
Dans les prochaines semaines, 4 références de vins sans alcool vont faire leur apparition sur les étagères de ce caviste.
Ce sera la première fois que l'on sélectionne des vins sans alcool. Parce qu'il y a une demande. On voit une certaine clientèle de femmes enceintes, par exemple. Et puis, il y a toute une clientèle assez jeune.
Il aura des références allemandes, mais en Gironde, du vin désalcoolisé est aussi produit, comme dans cette coopérative.
Vous voyez ici, dans cette colonne-là, ce liquide-là, qui est un verre au départ, est en train de perdre son alcool.
Pascal Modin est directeur technique de la coopérative Bordeaux Families, qui vend ses bouteilles en France, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis et en Chine.
On avait projeté au bout de 5 ans d'avoir l'outil saturé. Au bout de 3 ans, c'est déjà fait. Une activité, je dirais annexe, c'est en train de devenir une activité principale.
Aujourd'hui, 15% de leur production est sans alcool, une réponse à la crise de la consommation du vin qui rassure Fred Bizac, viticulteur de la coopérative.
C'était loufoque, je vous l'avoue, hein, parce que pour un viticulteur de boire du vin sans alcool, c'est quand même un peu bizarre, mais tant qu'on vend du produit, nous, ça nous donne de l'espoir, forcément. C'est une opportunité rêvée, ça c'est sûr.
En 2026, près de 4 Français sur 10 souhaitent encore réduire leur consommation d'alcool, d'après l'étude.
Voilà, Pierre Bourgès, à Bordeaux, le correspondant d'RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Justement, Quentin, vous en parliez, cette nuit, Emmanuel Macron a rencontré le président chinois.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec des conséquences économiques, et on en parle avec Emmanuel. Emmanuel, la Chine est le pays avec lequel la France a les échanges commerciaux les plus déséquilibrés.
Oui, comme beaucoup de pays développés. D'ailleurs, depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, à l'époque, l'économie chinoise, c'est l'équivalent de l'économie française en taille. Et notre déficit commercial avec Pékin, c'est une dizaine de milliards d'euros. 25 ans plus tard, la Chine pèse 6 fois plus que la France. Dans l'économie mondiale, notre déficit commercial avec Pékin avoisine la cinquantaine de milliards d'euros. C'est à lui tout seul la moitié de tout le déficit commercial de la France avec le reste du monde.
Alors qu'est-ce qu'on lui vend un peu et qu'est-ce qu'on lui achète beaucoup à la Chine ?
Alors, il y a 25 ans, on achetait du textile, des jouets, des gadgets électroniques, de l'électroménager bon marché, des articles de sport, bref, du basique pas cher. On vendait des produits chimiques et pharmaceutiques, des machines-outils, de l'agroalimentaire, des cosmétiques, des parfums, des Airbus un peu déjà. Aujourd'hui, on importe surtout de la technologies, des smartphones, tout notre matériel informatique, des PC jusqu'aux serveurs les plus sophistiqués, des robots, des panneaux solaires, des batteries, des pièces de voitures électriques, le textile, les jouets, les gadgets bon marché qui composent l'essentiel des 2 à 3 millions, vous savez, de petits colis dont on parle tant chez nous et qui arrivent chaque jour dans nos foyers, c'est 10% seulement de nos achats en Chine. L'essentiel de nos ventes, à nous, c'est des Airbus, des sacs Hermès Vuitton et du cognac.
Donc on leur vend des Airbus, des sacs Hermès Vuitton, du cognac, ouais. Et eux, ils nous vendent tout le reste.
Exactement.
Comment c'est possible? Et est-ce que c'est possible, tout simplement, de rééquilibrer nos relations commerciales avec la Chine?
La Chine, elle est tellement montée en gamme dans certains secteurs que c'est nous qui avons besoin aujourd'hui de transferts de technologie et nous ne rattraperons jamais la Chine. Le cas le plus spectaculaire, c'est quand même l'automobile. Il y a 10 ans, c'était pas si longtemps, 10 ans, on exportait plus dans le secteur automobile que ce qu'on importait de Chine. Aujourd'hui, on importe 10 fois plus que ce qu'on vend, 10 fois plus que ce qu'on vend à la Chine. C'est ce que disait Luca De Meo, l'ancien patron de Renault. Il disait, avant, on venait en Chine pour vendre, maintenant, on vient en Chine pour apprendre, parce que la Chine, aujourd'hui, rappelons-le, est le numéro 2 mondial de dépenses en matière de recherche et développement. L'objectif d'Emmanuel Macron, donc, c'est un, de rééquilibrer nos échanges. Il a obtenu quelques succès dans l'agroalimentaire, manifestement, dans les discussions de cette nuit. Et puis surtout, il veut faire venir les entreprises chinoises pour produire en France, comme la Chine voulait faire venir nos entreprises.
C'est fou, en fait, ça s'est totalement inversé.
Un renversement de perspective totale. Plus de 250 filiales d'entreprises chinoises sont déjà présentes en France, avec 24 000 salariés, énergie renouvelable, secteur stratégique. Et puis, à ne pas négliger, quand même, il faut y penser, hein, la protection douanière contre certains abus.
L'Union européenne qui devrait peut-être se réveiller, c'était l'alerte notamment de Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI.
Exactement.
Merci Emmanuel, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Ne bougez pas, ne bougez pas dans un instant. C'est Arnaud Demange qui nous rejoint à 8h30. Tiens, je poserai la question justement de ces entreprises chinoises et de la concurrence chinoise au patron des patrons, Patrick Martin, qui est donc mon invité à 8h30. Et puis juste après, il y aura Nicolas Canteloup, bien sûr, et ses imitations. C'est à 8h50, comme tous les matins, sur RMC. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud.
Et bonjour à tous. Ça va? Vous êtes chaud pour la vanne du calendrier de l'Avent du LOL? C'est le quatrième jour, c'est le 4 décembre. Alors attention, c'est une devinette mystère. Pourquoi les Bretons sont tous frères? Parce qu'ils ont qu'un père. Et dire qu'il y en a qui disent,
sur le calendrier de l'Avent.
Dire qu'il y en a qui disent qu'on peut plus être aussi insolent que Coluche. Mais voilà, sur RMC, on n'a pas peur de l'Arcom. Liberté. Et Apolline, on va continuer d'énerver les puissants.
Oui.
Puisque l'État a été condamné pour ne pas avoir appliqué une loi de 2001 qui prévoyait d'organiser des cours d'éducation sexuelle à l'école. C'est pour ça que la natalité est en baisse. Ça y est, on l'a le truc. Les jeunes ne savent pas comment on fait des bébés. Donc le gouvernement va organiser des cours de rattrapage. Donc, Apo, Géraldine, Mathieu, Pascal.
Oui.
Pascal, vous allez à l'école primaire du quartier.
Oui.
Vous serez convoqué. Pascal, tu vois, ton corps a changé. Les garçons ont un zizi, les filles. Exceptionnel, les cours d'éducation sexuelle. Non, Pascal, arrête de rire. Et alors, quand un garçon et une fille, c'est très
faire,
fort. Excellent. Bon, excusez-moi, c'est gentil de faire mon éducation sexuelle, mais il faut que j'aille chercher mon fils au lycée. Alors, dans certaines régions, depuis 2001, les élèves ont reçu très peu de cours. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Les gamins à la campagne, ils sont rencardés autrement. Tu vois comment ils font, les animaux? Bah, tu fais pareil. Ah bon? Ok. Capucine, je t'aime énormément. J'aimerais faire l'amour avec toi. Tu as mal compris, mon garçon. Non, je plaisante parce que maintenant, en plus, ils ont tous un smartphone. Ils connaissent, ils savent comment ça marche. Sauf s'ils sont chez SFR, auquel cas, ils ont des documents un peu pixelisés qui arrivent avec 3 jours de retard. Mais sinon, ils savent. C'est même les élèves qui apprennent des trucs à leurs profs maintenant. Qui sont là, hey, monsieur, 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 vous savez, pour le chemsex, la meilleure drogue, c'est la MDMA. C'est Sébastien Chenu qui m'a dit. Et pour faire un bébé, vous savez, il faut une maman et 15 papas sur un canapé.
Non,
ils sont au courant maintenant. Ils sont au courant. Non, ils savent. Non. Ils savent.
Allez, un petit peu de douceur. Le parc Astérix qui va ouvrir ses portes en Allemagne.
Ah, Astérix, là. Pour une fois qu'on arrive à exporter un truc aux Allemands. Alors, ce sera le parc Astérix, comme en France, mais avec des clients qui ont du pouvoir d'achat.
Ah oui,
il va changer beaucoup de choses. Ils adorent Astérix en Allemagne. Et c'est vrai qu'Astérix, avec sa moustache jaune, son casque, son pantalon rouge, tu lui rajoutes des bretelles, c'est un petit bavarois. Alors dans la version allemande, il y a quand même des différences.
Olixia, nous devons aller à Rome. Fini de tailler ton menhir.
Bien, j'arrive, Astérix. Je ne taille pas un menhir, je détruis un mur à Berlin. Idée fixe, kommen Sie. Oh, idée fixe, petit bébé, mon berger allemand de 130
kilos. C'est ça, il n'avait pas la bonne idée fixe, là, je ne sentais pas, voilà.
Allez, Obélix, enfile tes sandales chaussettes. Je vais voir le druide pour qu'il me donne une ration de choucroute magique.
Je peux en avoir.
Non, tu es déjà tombé dans le tonneau de schnapps quand tu étais petit. Alors Emmanuel Le Chypre, qui connaît bien l'Allemagne, m'a dit, il y a même des albums spéciaux pour les Allemands, qui sont des gens plus rigoureux que nous. Ils ont fait Astérix travaille jusqu'à 68 ans.
Ah oui.
Astérix à la bourse. Astérix fait du nudisme sur la plage à Dresde. Oh. Le prochain album, c'est Astérix construit des voitures de qualité. Ça change de chez nous.
Mais c'est un juste retour des choses, le parc Astérix en Allemagne. Parce que nous, on a déjà un parc qui célèbre les Européens blonds aux yeux bleus. On a le Puy du Fou. Et ben, eux, ils feront l'inverse. Voilà.
Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction des téléphones portables au lycée.
Ouais, dit comme ça, ça a l'air vachement simple. Hein. Il dit, on va faire comme ça, et hop, c'est fait. Alors que dans les faits, ça s'annonce quand même très difficile. Il doit rêver de faire tout comme ça. Il doit rêver de faire la même chose avec la drogue. Il ira voir la DZ Mafia. Bonjour les frérots. Dites donc, la drogue là, c'est pas bien. Maintenant, c'est interdit. C'est pas bon pour les jeunes. Oh, t'es sûr de toi, le sang? C'est pas bon pour la jeunesse? Putain, merci le boss, on n'y avait pas pensé. C'est bon, on arrête, c'est bon. Le deal, c'est fini, on va faire de la pâtisserie, le sang. Vous êtes d'accord, l'équipe?
Ouais, on va faire des éclairs au café, le boss. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur les ravages des stupéfiants, monsieur le président. Tiens bon, le sang. Tu veux pas faire un troisième mandat?
Brigitte, j'ai fait un rêve formidable.
Ah ouais, et c'était encore un rêve avec Mbappé?
Mais non, enfin, Brigitte, arrête avec cette histoire.
Le service militaire, pas de portable à l'école, Macron est clairement nostalgique de la France des années 80. Hein. J'ai peur de ses prochaines annonces.
Française, français, j'ai un cancer et une fille cachée. Alors appelez-moi Dieu. J'ai aussi demandé à France Télévisions le retour de Stéphane Collaro et des Coco Girls à la télé. Chaque soir, elles chanteront « Ce mec est too much, ce mec est trop ». Je ferai aussi passer une loi pour interdire les écrans plats parce qu'on peut même pas poser de napperon dessus.
Oui.
La France sera aussi pionnière sur le Minitel et Thierry Hazard sera nommé ministre de la Culture. Et dernière chose, je réintroduis le septennat. Du coup, je reste encore 4 ans. Voilà. Ah oui, c'est too much. Ah oui, c'est trop. Allez, à demain.
À demain, Arnaud de Manche. Il est 8h20 et c'est l'heure de ressortir le calendrier de l'Avent.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
It's Christmas! Et en particulier pour Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Félicitations Aurélie, c'est vous qui avez gagné ce matin. Vous êtes enseignante en Seine-Maritime, c'est ça?
C'est ça. J'ai aidé une classe de CM1, CM2 à Duclair.
Ah, une classe de CME. Ah ben, on les salue. J'ai du CM1 à la maison, moi. Alors, attention. On ouvre le petit calendrier de l'Avent du numéro 4. Attention, Aurélie, vous êtes prête?
Prête.
Aurélie, vous avez remporté une machine à café, broyeur de grains de la marque Smeg. Wow. Des grains fraîchement moulus, une buse vapeur pour déguster une grande variété de boissons avec ou sans lait. Valeur 699 euros. Félicitations, Aurélie.
Super, merci beaucoup.
Bravo. Aurélie qui va pouvoir se prendre un bon café avant d'aller retrouver la classe. Ils sont sympas, vos élèves?
Ils sont super sympas, mes élèves.
Ah, on les embrasse très très fort et on vous embrasse aussi, Aurélie. Merci d'écouter chaque jour RMC. On est heureux de vous gâter. Il est 8h21. Dans un instant, c'est le patron des patrons qui sera mon invité sur RMC et BFM TV, Patrick Martin. Ce budget, est-ce qu'il vaut mieux ce budget-là ou pas de budget du tout? La fronde des patrons qui se poursuit, les perspectives d'emploi et d'économie. Patrick Martin, donc mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
La Chine peut jouer un rôle déterminant dans la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a dit cette nuit Emmanuel Macron depuis Pékin, où il entame une visite d'État de 3 jours. Une prise de parole alors que les négociations avec les États-Unis patinent, malgré l'optimisme affiché par Donald Trump, qui semble convaincu que Vladimir Poutine, je cite, veut mettre fin à la guerre. Le chef du Kremlin a lui jugé très utile sa rencontre avec la délégation américaine. La France appelle à la libération libération de Christophe Glaize ce matin après la confirmation en appel de la peine de 7 ans de prison dont a écopé le journaliste français détenu en Algérie depuis le mois de juin pour apologie du terrorisme alors qu'il s'était rendu dans le pays pour un reportage. Il a désormais une semaine pour se pourvoir en cassation. La sanction est tombée pour celui qui a profané la tombe de Robert Badinter le jour de sa panthéonisation. L'homme de 23 ans a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Et puis l'enquête se poursuit à Alès dans le Gard. Après le terrible accident survenu dans la nuit de mardi à mercredi, la sortie de route sous une pluie battante d'un véhicule provoquant la noyade de 3 jeunes âgés de 14, 15 et 19 ans. Des bouteilles de protoxyde d'azote, de l'alcool et du cannabis ont été retrouvées dans la voiture sans qu'on sache si les passagers en avaient consommé. Le temps aujourd'hui sera très perturbé avec la pluie qui traverse le pays d'ouest en est. Après la pluie, il y aura quelques éclaircies mais surtout des averses. Averses orageuses et avec beaucoup de vent près de l'Atlantique. Les températures, elles restent stables au-dessus des normales de saison. Il fera entre 6 degrés à Dijon, Strasbourg et Aurillac, jusqu'à 15 à Perpignan et Nice et ça monte à 16 à Ajaccio.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le patron des patrons, Patrick Martin, président du MEDEF. Ce budget, il estime que c'est un budget anti-patron. Alors, est-ce qu'il vaut mieux un budget anti-patron ou pas de budget du tout? La réponse avec Patrick Martin, le monde des entreprises, dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du MEDEF. Hier, vous étiez avec Sébastien Lecornu. Dans ce moment où tout se joue, où on ne sait toujours pas d'ailleurs si on aura un budget, pas de budget, ce qu'il y aura vraiment dans ce budget. Et c'est d'ailleurs ma première question, Patrick Martin. Pour vous, c'est-à-dire pour les entreprises, est-ce qu'il vaut mieux ce budget-là ou pas de budget du tout?
C'est un vrai dilemme. Pas ce budget-là. Alors on nous prête derrière des intentions politiques, nous on fait pas de politique, on fait de l'économie, on prend en compte la situation du monde et un décrochage assez rapide de la France. Je cite juste un cas. L'Allemagne qui était très excédentaire en balance commerciale sur la Chine est maintenant déficitaire. Et nous, en France, on parle de petits sujets, court-termistes, politiciens. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre hier, il faut quand même ramener de la raison.
Vous allez me dire s'il vous a répondu ou pas, mais vous avez surtout répondu à une partie de ma phrase. Je voudrais juste m'assurer que vous aviez bien compris la question. Ma question, c'était, est-ce qu'il vaut mieux ce budget ou pas de budget? Vous m'avez dit, il faut pas ce budget. Est-ce que ça veut dire que vous vous dites, au fond, il vaut mieux carrément pas de budget?
Non, l'épreuve n'est pas terminée. Hein. Donc nous, au quotidien...
Il reste quelques jours.
Oui, on discute avec tous les parlementaires, et je le redis, on essaie de les ramener à la raison. On va reculer sur les retraites, vouloir reculer dorénavant, ça n'est pas du législatif, mais du réglementaire sur l'assurance chômage. J'ai envoyé un signal terrible, ça veut dire que la France peut se permettre de travailler moins. Je redis que le monde autour de nous devient très brutal, y compris sur le plan commercial, donc je ne désespère pas que nos parlementaires, parce que c'est évidemment à l'Assemblée que ça va se jouer, et dans un éclair de lucidité, un ressaisissement, et qu'on reprenne en compte la situation économique et sociale réelle du pays. On détruit des emplois, la croissance est mollassonne dans le meilleur des cas, il y a des faillites qui se multiplient, faudrait peut-être à un moment donné lever le nez du guidon et se projeter dans l'avenir.
On va essayer de se projeter ensemble, mais ce que je comprends bien, parce que c'est vraiment maintenant que ça se joue, c'est qu'au fond, vous espérez encore que ce budget revienne à la raison, pour reprendre votre expression. Si ce n'était pas le cas, certains disent il vaut mieux pas le voter, ce budget. Et tant pis, il n'y aura pas de budget. C'est ce que dit Édouard Philippe, c'est ce que commence à laisser entendre une partie de LR. Est-ce que, oui ou non, vous vous dites, moi je préférerais qu'il ne le vote pas, ce budget, plutôt qu'on se retrouve avec ces taxes dont vous parliez, avec cette mainmise sur une partie des entreprises?
Écoutez, au risque de vous choquer, je vais vous dire que les chefs d'entreprise s'en fichent. Tout ça, c'est de la tambouille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre en compte la réalité de la situation économique. Et on a peu dans nos rangs de constitutionnalistes ou d'agrégés de droit public qui sont capables de vous expliquer ce que c'est qu'une loi spéciale, ce que c'est que des ordonnances.
En tout cas,
etc.
Ça vous angoisse pas, cette loi spéciale, ces ordonnances, mais cette manière de reconduire le budget précédent?
On fait confiance à ce gouvernement pour trouver la meilleure voie de passage. Mais notre sujet n'est pas là. On voit les carnets de commandes qui se vident, on voit des emplois supprimés, on voit des investissements qui sont rapportés ou carrément supprimés eux aussi. Et et on se désespère que le débat parlementaire ne prenne pas en compte cette situation. Après, ça nous dépasse, c'est pas nous qui soutiendrons ou pas à l'Assemblée le gouvernement.
Vous ne faites pas de politique, dites-vous, mais vous êtes quand même angoissé par la politique et par ses conséquences. C'est-à-dire ce que vous disent les patrons aujourd'hui, on en parlait ce matin avec Emmanuel Le Chypre, il dit, c'est comme s'ils avaient presque intégré l'idée que 2026 était une année pour rien.
Oh, c'est pire que ça. Et je crois que d'ailleurs, l'opinion publique française, au global, se désespère de ce spectacle politique. Mais je voudrais attirer votre attention là-dessus. Au même moment où donc l'UNEDIC, l'assurance chômage, étant déficitaire, 450 000 emplois n'étant pas pourvus, les finances publiques étant dans un état délabrement avancé, le gouvernement veut rapporter un projet de réforme de l'assurance chômage, on nous dit qu'on va réduire les allègements de charges, donc renchérir le coût du travail à hauteur d'1,5 milliard. Et nous, on se dit objectivement, respectueusement, républicainement, ces gens-là marchent sur la tête.
Et là, vous parlez effectivement d'une des propositions toutes récentes. On a l'impression qu'effectivement, elles sont glissées les unes après les autres, jour après jour, sur l'idée de supprimer les allègements de charges sur les plus bas salaires. On est bien d'accord ?
Une partie, et à vrai dire plutôt sur les salaires intermédiaires, dans les professions les plus exposées à la concurrence internationale. Mais je le redis, d'un côté...
Ça aura une conséquence sur l'emploi. Ça aura une conséquence sur l'emploi si ça passe.
Mais bien sûr, il y a trois mesures qui sont à l'étude. Je le redis, revenir sur un projet de réforme de l'assurance chômage, alors même que l'assurance chômage va être déficitaire d'1,6 milliard l'année prochaine. Revenir sur les allègements de charges à hauteur d'1,5 milliard et revenir sur les aides à l'apprentissage. On est en train de foutre en l'air ce magnifique succès collectif sur l'apprentissage. On envoie des signaux qui sont absolument aberrants. Ça pèsera sur le marché de l'emploi. Ça pèsera sur la capacité qu'auront les entreprises à revaloriser les salaires. Et ça envoie un signal terrible, comme la suspension de la réforme des retraites, à savoir, on peut se permettre de ne pas travailler plus dans ce pays.
Il vous a répondu quoi, Sébastien Lecornu ?
Ben, Sébastien Lecornu, il est, philosophiquement d'accord, mais très gêné aux entournures, de par ce panorama parlementaire. Et puis, disons les choses, une partie de poker menteur qui a été gagnée par le Parti Socialiste, et qui, je le déplore, n'est pas aussi responsable qu'il a pu l'être à certaines époques.
Ça veut dire qu'il s'est fait avoir, et vous, vous êtes fait avoir du coup ?
Je ne suis pas à sa place. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas être à sa place pour tout vous dire, j'en serais incapable. Mais je crois qu'il y a un rapport de force qui s'est instauré et qui est très défavorable, non pas au Premier ministre lui-même, mais au pays. On va payer tout ça très cher. Ça n'est pas innocemment que je vous ai dit ce que faisaient les Allemands. Les Allemands vont soutenir leurs entreprises. Ils sont en train, de manière très réactive, de manière très déterminée, de remuscler leur économie parce que eux prennent en compte la situation économique et notamment cette concurrence très agressive, à certains égards déloyale, de la Chine.
Vous aimeriez qu'on s'en inspire davantage, et puisque vous évoquez la Chine, rencontre cette nuit entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, la rencontre, le voyage qui se poursuit, la concurrence chinoise est-elle aujourd'hui déloyale ?
Elle est en bonne part déloyale. Elle est en bonne part déloyale. Enfin, c'est avéré sur l'acier, sur le photovoltaïque, sur certains produits chimiques. Celle est dorénavant sur le commerce de détail. Je suis, je crois, le seul en France à avoir rencontré à deux reprises le CEO, le patron mondial de Chine, la fameuse place de marché. Je peux vous dire que en industrie, mais également dans le commerce, c'est un rouleau compresseur avec des stratégies très prédatrices qui sont exacerbées par le fait que la Chine, ne pouvant plus déverser sa production sur les États-Unis, elle la reporte sur l'Europe et sur la France. On va déstabiliser des pans entiers de notre économie.
Faut-il que l'on referme nos frontières ? C'est presque ce que demande le patron de la BPI, Nicolas Dufourcq, qui dit que l'industrie chinoise va tuer toutes nos PME, de Pologne jusqu'au bout de la Bretagne. Je redis régulièrement cette phrase parce qu'elle m'a énormément marqué. Et il invite l'Union européenne à se refermer, le temps de se réarmer. Est-ce que vous l'invitez également à faire cela ?
De prendre des mesures de protection temporaires, le temps de se réarmer à l'égard des pays qui sont agressifs et déloyaux, mais pas d'une manière générale. Il faut que dans le même temps, l'Europe, la France, s'ouvre de nouveaux marchés. Je pense en particulier à l'Amérique latine.
Donc vous êtes favorable au Mercosur ?
Mais bien sûr, avec des mesures d'accompagnement pour les quelques filières agricoles qui pourraient souffrir de cet accord.
Est-ce que vous êtes favorable également à la suspension de Chine, au moins temporaire ?
Oui. Oui, parce que je le dis, quand j'ai discuté donc avec M. Donald Tang, le patron
le
de
patron de Chine.
Très talentueux. Hein. Il a fait mine de s'étonner que sur sa place de marché existent des produits strictement illégaux, on sait lesquels, des produits non conformes à nos réglementations, y compris sur le plan sanitaire, qu'il y a du contournement de nos réglementations fiscales. Donc, à un moment donné, il faut rétablir de l'équité. Sans quoi, de la même manière que on a détruit en bonne part notre industrie automobile en laissant les Chinois submerger le marché européen, l'Europe a été coupable dans cette affaire. Demain matin, et c'est parti pour, on n'aura plus de commerce de centre-ville. Et en amont de ces commerces de détail non alimentaires, il y a l'industrie du jouet, il y a l'industrie textile, il y a l'industrie de la cosmétique, qui par contre-coup vont elles aussi être affaiblies.
Est-ce que l'Union européenne, vous dites, elle a été coupable? Est-ce qu'elle a encore aujourd'hui une forte responsabilité, pas seulement dans l'ouverture à la Chine, mais dans le fait d'avoir imposé, c'est ce que disent un certain nombre de patrons, notamment dans l'automobile, d'avoir imposé trop tôt des normes trop contraignantes qu'elle n'imposait pas aux autres?
Oui, mais de la même manière que je vous disais que l'Allemagne se ressaisit avec beaucoup de détermination, l'Europe est en train de se ressaisir également en prenant enfin un certain nombre de mesures qui, soit dit en passant, sont toutes écrites dans le rapport Draghi auquel le MEDEF a beaucoup contribué.
Et qu'on aurait donc dû lire plus tôt.
Oui, qu'on aurait dû lire plus tôt. Et puis, j'insiste là-dessus, ça n'est pas qu'un rapport ou une stratégie au-delà du rapport défensif. C'est au contraire pour redonner un espoir, redonner une ambition, redonner toute sa place à l'Europe, par voie de conséquence à la France.
Demain, première réunion d'une nouvelle conférence à nouveau sur emploi, retraite, travail. Et vous n'y serez pas ?
Non. Non, nous n'y serons pas parce que nous considérons que c'est un exercice de style et on ne peut pas d'un côté nous attirer, je dirais, sur un nouveau conclave en définitive, et d'un autre côté prendre toutes les mesures que je viens d'évoquer qui vont pénaliser la performance économique, donc la performance sociale de la France. Il y a une forme d'urgence, prenons les choses dans l'ordre. Bien sûr qu'il va falloir retravailler le sujet des retraites, bien sûr qu'il faut s'interroger sur la qualité de vie au travail, mais je vais vous dire, le vrai sujet de la France en ce moment, prioritairement, c'est quoi? C'est de préserver l'emploi et de préserver le pouvoir d'achat. Donc, l'espèce de grand barnum que serait cette conférence ne nous paraît pas être très motivant, en tout cas très prioritaire.
Vous êtes plus très copain avec vos confrères, avec la CPME qui, elle, y va, avec... J'ai quand même l'impression que le patronat est un peu divisé aujourd'hui.
Ah, pas du tout.
Vous n'êtes pas mis d'accord pour ceux qui y vont?
On a adressé au Premier ministre et au ministre du Travail, il y a maintenant deux jours, une lettre commune.
Oui. Parce qu'il vous avait écrit à vous tous.
Non, il ne nous avait pas écrit à nous d'ailleurs.
Il a écrit au patron de France.
Ah, le Premier ministre.
Oui.
Mais non, je pensais au ministre du Travail.
Non, non.
Bien sûr. Mais le Premier ministre est parfaitement conscient que, à la base, dans le patronat, les petits, les grands, les moyens entrepreneurs ne comprennent plus ce qui se passe et qu'il y a l'apparition d'un phénomène de colère. Moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais eu autant de monde dans les réunions que je mène dans nos territoires, en province, je suis provincial, hein. C'est 1000 personnes, c'est 1200 personnes, c'est 1500 personnes. Alors, on descend pas dans la rue, c'est pas violent, mais quand même, il y a l'expression d'une incompréhension et progressivement d'une forme de colère. On ne comprend pas sur quel terrain jouent les politiques.
Mais vous dites, on descend pas dans la rue, on manifeste pas, vous avez failli.
On a failli, mais comme il n'y a plus de gouvernement à ce moment-là, on ne savait pas à qui parler. Donc on a
cette
suspendu.
Idée d'un grand meeting, ouais. des patrons, elle n'est toujours pas d'actualité, enfin elle n'est plus d'actualité. Où vous pourriez la réveiller?
J'espère qu'on n'aura pas à la réveiller. Et je pense qu'on n'aura pas à la réveiller, parce que quand même l'entretien de plus de 2h30 que nous avons eu hier avec le Premier ministre, tout le bureau exécutif du MEDEF, donc toutes les filières représentées, a été un discours, enfin du moins une discussion, à certains égards rassurante, sauf sur le social. Je reviens sur ce que je viens de vous dire. Après la suspension de la réforme des retraites, suspendre la réforme de l'assurance chômage, vouloir renier encore les allègements de charges pour les entreprises et revenir sur l'apprentissage, ça nous paraît aberrant. Et on l'a dit avec énergie.
Patrick Martin, Sophie Binet vous cible dans un entretien qu'elle accorde au journal Le Monde cet après-midi. Elle dit on a l'impression que le MEDEF a eu l'impression d'avoir tous les droits. Nous sommes face à des caprices d'enfants gâtés et nous sommes face à une radicalisation du patronat.
Alors, si par enfant gâté, elle vise les 70 000 chefs d'entreprise qui, cette année, vont déposer le bilan, perdre leurs salariés, perdre leur patrimoine, je trouve que c'est particulièrement malvenue. Si, disant ça, elle vise tous ces chefs d'entreprise, toutes ces entreprises, à vrai dire, au-delà de leurs responsables, qui sont confrontés à la concurrence, dont chinoise, je pense qu'elle fait une lourde erreur d'analyse. Donc voilà, moi, je ne veux pas polémique avec elle, je prends connaissance.
C'est quand même en train de virer au bras de fer.
Non.
Elle parle de votre radicalisation, de votre caprice d'enfant.
Mais moi, je ne rentre pas dans des querelles personnelles, surtout avec Sophie Binet, que j'estime comme toutes ses homologues. Bien, ça n'est pas la question. C'est pas un caprice d'enfant, c'est pas une radicalisation du MEDEF, c'est une radicalisation de la situation économique et par voie de conséquence sociale. Que je sache, on est en train de détruire des emplois. Dans le secteur privé, en l'espace d'un an, c'est plus de 100 000 emplois. Et ça s'accélère. C'est ça notre souci et ça devrait être le sien aussi.
Sophie Binet qui, hier, disait à propos de LVMH, je cite, que l'essentiel des emplois du géant du luxe est à l'international, que finalement LVMH n'est pas un point fort de l'économie française, voire même que c'est un handicap pour la France.
C'est lamentable de dire ça. Je pense qu'on devrait se réjouir, en tout cas moi je me réjouis qu'on ait des grands groupes, dont LVMH, qui se projettent à l'international. Que je sache, on a encore une balance commerciale déficitaire de 80 milliards d'euros par an. Je crois que ça devrait nous réunir au contraire pour que ensemble on travaille sur le modèle productif, organisation syndicale, organisation patronale, en tout cas c'est la demande du MEDEF, pour que ensemble on identifie les voies et moyens de se redresser.
Le fossé est en train de se creuser davantage.
Si vous voulez, certains font de la politique, le MEDEF ne fait pas de politique. Moi, je ne vais pas aller faire des numéros de claquettes, je ne prends pas parti pour un tel ou un tel. On sait très bien qu'une élection présidentielle qui se rapproche et que ça nous met tous sous pression.
Elle fait de la politique, la CGT.
Mais bien sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on pourra sainement, je dirais, redistribuer du pouvoir d'achat en créant de la richesse dans ce pays.
Un mot quand même aussi sur ces prises de position et les phrases utilisées. Elle l'avait dit à propos des patrons qui pouvaient être tentés d'investir aux États-Unis. Les rats quittent le navire. Cette phrase, elle a été attaquée par une patronne, Sophie de Menton, et pour l'instant, la justice la suit, puisqu'elle a décidé de mettre en examen Sophie Binet. Quand on est un patron syndical, du côté du patronat, du côté des travailleurs de la CGT, est-ce qu'on doit avoir le droit de pouvoir dire une phrase comme « les rats quittent le navire » Est-ce que vous regrettez cette judiciarisation ou est-ce qu'au contraire, vous comprenez?
Non, c'est une question de droit, c'est une question de bon sens. Ça n'est pas à nous, je pense, partenaires sociaux, en tout cas le MEDEF ne le fera pas, ça n'est pas à nous de remettre de l'huile sur le feu. Le pays est assez inflammable comme ça. Et ce que j'observe, avec beaucoup de prudence, c'est que pour l'instant l'entreprise reste un des derniers lieux de cohésion sociale, un des derniers lieux d'inclusion. Donc c'est un bien précieux, ça n'est pas un bien précieux que pour les chefs d'entreprise. Vous avez 80% des salariés qui disent être bien dans leur entreprise, et je pense qu'il y a beaucoup de bon sens chez les Français. Donc ne nous laissons pas impressionner par les postures, par les diatribes, par les anathèmes. Ce qui nous importe, c'est les faits.
Mais j'ai pas compris, vous condamnez ces propos ou vous condamnez le fait que ça soit judiciarisé?
Ah mais je condamne pas le fait que ce soit judiciarisé.
Ça imposera que le dialogue soit plus courtois.
Je ne veux pas tomber dans ce panneau-là. Au MEDEF, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des gens qui travaillent, nous sommes des gens qui réfléchissent et nous sommes des gens qui proposent. Donc tout ça, c'est l'écume des choses et ça n'est pas le MEDEF qui ira hystériser le débat public.
Vous parlez avec le RN?
On ne parle pas plus avec le RN qu'avec LFI, donc pas beaucoup. Et pour nous, ça n'est toujours pas le sujet du moment.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous estimez, puisque je vous pose la question sur le RN, vous répondez LFI, est-ce que vous mettez les deux sur un plan d'égalité?
Mais non, on n'en est plus là. C'est terrible à dire, on n'en est plus là. Nous, on se déconnecte, c'est terrible à dire, on se déconnecte de ces débats parlementaires, de ces postures parlementaires qui sont indéchiffrables.
Est-ce que vous refusez de les voir ou est-ce que juste vous ne les voyez pas?
On refuse pas de les voir, mais... On veut s'extraire de ces postures politiciennes court-termistes qui peuvent être celles du RN quand on regarde comme d'un vote à l'autre, ils peuvent changer de posture, mais ça s'applique à d'autres formations politiques. On ne veut pas se laisser embarquer là-dedans.
Quand vous voyez que effectivement le RN pour certains est devenu communiste, c'est la critique que lui envoient notamment les partis de droite, pour d'autres il serait au contraire devenu trop libéral, est-ce que le rapport aux entreprises du RN s'est normalisé?
Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre. Et pardon, ça n'est pas mon problème. Ça n'est pas le problème des chefs d'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise sont le dos au mur. Beaucoup de chefs d'entreprise ont
des problèmes. J'imagine que vous avez regardé leur programme économique.
Mais j'avoue que je ne le comprends pas toujours.
Vous n'êtes au minimum pas du tout convaincu.
Non, mais pardon. Nous, notre problème, c'est de savoir si on va rentrer des commandes, si on va pouvoir préserver des emplois et si possible en créer, si on va pouvoir tenir tête à la concurrence internationale. Et je redis que le débat parlementaire en ce moment nous éloigne tellement de ces préoccupations existentielles pour les entreprises et pour le pays que finalement on prend le parti de ne même plus chercher à suivre l'actualité politicienne au quotidien.
Vous lancez une véritable alerte, je le sens.
Lance une véritable alerte. La France n'est pas un monde à part, mais la France politique actuellement est un monde à part. Eh bien écoutez, à un moment ou à un autre, on va le payer, et nous, on veut absolument éviter ça. Il faut un ressaisissement, il faut de la lucidité, il faut du courage.
Merci Patrick Martin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Président du MEDEF sur RMC et BFM TV, il est 8h47. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Patrick Martin, le vrai Patrick Martin, est resté dans ce studio. Rebonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Il est resté avec nous et Arnaud Montebourg voulait aussi nous dire un mot, je crois.
Bonjour Apolline. Bonjour Patrick Martin, que j'ai écouté attentivement. Et je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais avec Patrick Martin, on ne joue pas dans la même cour.
Ah bon?
Moi, je gère 5 millions de salariés.
Ah ben, non.
As-tu fait le calcul? 100 ruches à 50 000 abeilles, hein?
Ah ouais.
Voilà.
C'est vrai que vous êtes dans le miel, oui.
Alors, 5 millions, c'est quelque chose. T'imagines le boulot du DRH? Hein. Et une fois, j'ai une panne de logiciel au moment des fiches de paye, je peux te dire, c'est chaud.
Ah ouais.
C'est chaud. Chez moi, il n'y a pas de différence salariale homme-femme, tu vois, parce que j'ai trouvé le truc. J'emploie des ouvriers. Voilà. Hein? Bon, si j'ai quelques bourdons qui font la sécu à l'entrée, mais je peux te dire que les abeilles, c'est comme chez RMC, rentre pas comme ça, faut qu'elles bâchent.
Ah, faut qu'elles bâchent, voilà. Oui, on a compris. Vous avez des solutions, vous, pour relancer l'économie?
Mais la solution, Apolline, Patrick, elle est devant nous, elle nous attend, elle est là! C'est les marchés de Noël!
Les marchés de Noël.
Mais écoute, les marchés de Noël, c'est le seul endroit où t'arrives à vendre, hein, un saucisson 25 balles et une paire de chaussettes qui clignotent 30 balles.
Oui.
Hein, c'est une super opportunité et les gens achètent. Mmh. Ben moi, fort de cette observation microéconomique, tu vois, je propose d'élargir les marchés de Noël à tous les secteurs de vente. Tu vois, hein, il faut qu'on puisse trouver le litre de gasoil à 8 euros.
Mmh.
Hein, il faut qu'on puisse trouver également la brosse à dents de Noël à 40 balles.
Mmh.
Hein, la machine à laver à 5000 euros. Voilà. Et puis, c'est pas tout. Je pense qu'il faut avoir, et je le dis à Patrick, parce que c'est une piste de réflexion, Patrick. Je pense qu'il faut avoir une vision transversale du calendrier.
Ah oui.
Tu vois, ne pas se réduire. Tu vois, au niveau de la temporalité. Mmh. Hein, il faut faire le marché de Noël au plein mois d'août.
Ah oui.
Bah oui, là, tu surprends. Là, c'est créatif. Et c'est peut-être la chose que je reproche à Patrick Martin.
Ah oui.
C'est ce manque de créativité. Tu vois, Patrick, tu serais venu ce matin avec un bonnet rouge, une barbe blanche, ton joli traîneau. Eh ben, on avait le Patrick Martin de Noël.
Voilà.
C'est autre chose. Bon, après, il fallait que tu t'alignes avec les primes de Noël et les salaires de Noël qui vont avec. Ça t'arrange pas. Je comprends.
Mmh.
Mais quand même, ça aide la gueule. Là, ton interview, Apolline. Eh, buzzer.
Elle buzzait, c'est sûr, elle buzzait du tonnerre. Merci Arnaud Montebourg.
J'en prie.
Emmanuel Macron est arrivé en Chine pour une visite d'État de 3 jours. Il est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur le Président, vous avez fait bon voyage.
Oui, bonjour chère Apolline. Oui. Je me permets de saluer à distance Patrick Martin. Écoutez, oui, aucune turbulence pendant le vol. Il y a juste un atterrissage où, comme d'hab, je m'en suis pris une par Brigitte.
Ah oui. Les Chinois vous ont réservé bon accueil.
Écoutez, on critique beaucoup la Chine, mais c'est un pays formidable, la Chine.
Mmh.
Moi, franchement, en Chine, je revis. Il n'y a pas de problème de majorité à l'Assemblée. Il n'y a qu'un parti unique. Ça évite que les électeurs votent comme des cons. Hein? En Chine, il n'y a pas de médias qui râlent parce que l'État veut labelliser ce qu'il dit. En Chine, ça pleurniche pas sur la réforme des retraites. Hein, ça bosse de 5 ans à 95 ans. Faut que tu y ailles, Patrick. Hein? La Chine, c'est un... Non, mais franchement, la Chine, c'est un vrai paradis pour président. Vous savez quoi? Je me demande si je suis pas mettre au mandarin.
Ouais, c'est bien. L'Élysée veut combattre la désinformation et les fake news. Un label qui pourrait être créé pour reconnaître les médias fiables. Éric Zemmour est avec nous. Vous êtes contre cette solution?
Non mais
Mais pas du tout. Moi, je suis pour qu'on dise la vérité. Voilà. Mmh. Hein. Mais le problème, c'est que c'est qu'on se prend des procès. Voilà. Quand je dis qu'un noir, ça court vite et qu'un migrant, c'est dangereux, eh ben voilà, je finis au tribunal.
Bon, alors heureusement, dans cette histoire de vérité, bon, voilà, heureusement que vous êtes visé. CNews aussi est visé quand même là.
Mais pourquoi vous croyez que sur le service public, on dit la vérité? Non mais franchement, quand Michel Drucker reçoit Sheila et qu'il lui dit votre autobiographie Sheila elle est formidable, tu crois qu'il dit la vérité Drucker? Il a même pas lu l'autobiographie de Sheila, hein? Et pareil, Plus belle la vie la série, hein? Dans Plus belle la vie les Marseillais dans leur série, ils ont pas d'accent, ils ont pas de calache, ils sont pas drogués, ils sont tous blancs. Vous pensez que c'est ça la vérité? Eh ben non, eh ben voilà.
Merci Éric Zemmour. Emmanuel Macron a annoncé le retour du service militaire, une annonce qui ne suscite pas vraiment l'engouement des jeunes. Notre ami grande gueule, Charles Consigny est avec nous. Bonjour Charles.
Alors, écoutez, moi je trouve, c'est vrai, et ce sera mon coup de gueule, je trouve que nos jeunes, pardon, excusez-moi de le dire, mais je trouve que nos jeunes aujourd'hui manquent clairement de volonté et d'énergie. Non mais pardon, mais excusez-moi, la dernière fois moi que j'ai vu des jeunes courir, c'était parce qu'il y avait une promo chez Darty sur les PlayStation 5 et les jeux de guerre vidéo. Voilà, donc clairement, pardon, excusez-moi de le dire, mais finalement, et c'est la fin de mon coup de gueule.
Ah oui, on est
vous voyez que je sais redescendre parce que c'est vrai que j'étais un peu monté dans les tours. C'est vrai que finalement, tout cela arrange tout le monde. Parce qu'on voit bien que les jeunes, d'un côté, ne veulent pas s'engager, pardon, excusez-moi de le dire, ils ne veulent pas s'engager. Mais d'un autre côté, c'est vrai que les militaires de carrière, les professionnels, ne veulent pas non plus de ces jeunes qui, clairement, manquent de dynamisme et d'énergie. Donc finalement, tout est bien qui finit bien.
Merci beaucoup, Charles Consigny. Allez, à Paris, une polémique a lieu car trop de passants s'amusent à se faire prendre en photo en touchant les seins de la statue de Dalida. Stéphane Bern est avec nous.
Mais les gens sont zinzins. Qui se dit le dimanche, à part peut-être Alain Marchal, qui se dit, tiens, si on allait se balader en famille à Montmartre pour aller toucher les nichons de Dalida? Non mais franchement, mais je le dis, mais que fait la ministre de la Justice de la Culture?
Bon, en plus, ça abîme la statue, hein, parce qu'à force d'être touchée toute la journée, les seins sont devenus dorés.
Mais tout à fait, on dirait qu'elle a la poitrine en or, cette pauvre Dalida. Tellement elle est lustrée par les gens qui la tripotent. Vous l'avez fait, Patrick? Non, pas encore. Et pourquoi on fait ça? On se permet ça parce que c'est une femme. Excusez-moi de le dire, mais devant le Grand Palais, qui c'est qu'il y a devant le Grand Palais? Il y a la statue du général de Gaulle. Mais personne ne vient lui toucher les... Hein, franchement. Mais non, que je sache, il n'a pas la teub en or. Hein. Alors si on respecte le général, on respecte Dalida. Et je le redis, que fait la ministre de la Culture?
Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le frère de Dalida, Orlando, finalement, il n'est pas contre. En tout cas, il trouve que ce geste est très affectueux.
Mais non, mais Orlando, il sait très bien que Mitterrand faisait pareil avec la vraie. Hein. Alors franchement, qu'on tripote un bout de ferraille, vous pensez bien qu'ils s'en foutent total. Non, mais je le redis, que fait la ministre de la Culture?
Oui, j'aime bien le dire et le redire, parce que moi, en grand défenseur du patrimoine, je rêve de prendre la place de Rachida comme ministre de la Culture.
Merci Stéphane Bern et merci à Nicolas Canteloup. Face à Canteloup qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC à tout moment en podcast. Merci Patrick Martin d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG, Alain.
Oui, les grandes gueules de 9h à midi comme tous les jours. Bien évidemment, vous parliez des chroniqueurs d'RMC, Nicolas Canteloup et Louis Sarkozy qui fait une proposition. Il ne veut plus de feux rouges, de lignes blanches, de panneaux de signalisation sur la route. Il estime que c'est plutôt aux automobilistes de prendre leurs responsabilités, de retrouver la liberté de bien conduire. Alors, est-ce qu'il faut effectivement en finir avec les feux, les lignes blanches et les panneaux de signalisation et on sera suffisamment responsable pour bien conduire? 32-16 pour en parler avec les GG.